الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Lors de notre dernière rencontre, je vous ai proposé les définitions littérales ainsi que conventionnelles des termes talaq. Et donc aujourd'hui on continue inchallah avec cet exposé. Nous avions dit que le divorce a été institué par le Coran et la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons cité quelques exemples des sourates et des versets dans lesquels Dieu a indiqué donc la légitimité de recourir au divorce en cas de problèmes pour lesquels on ne trouve pas de solution. Et j'ai cité entre autres la sourate 2, le verset 229, la sourate le divorce 65, le verset 1 et d'autres sourates, ainsi que pour les versets, le hadith, j'avais cité le hadith que vous connaissez tous, apporté par Abu Daoud et Ibn Majah avec une chaîne jugée authentique, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Donc concernant le divorce, donc inna abghadha al-halal ila Allah al-talaq. La chose que Dieu désapprouve le plus, alors parmi les choses qu'il a rendues permises, le divorce. Donc nous avons dit aussi que la sagesse pour laquelle Dieu avait institué le divorce, c'est de, en vérité, de résoudre un problème crucial de la famille que nous n'avons pas, à laquelle on n'a pas trouvé de solution, et donc on recourt à ce qu'on appelle la règle de Usul Fiqh, Al-Amal bi Ahwan al-Dhararayn. Nous sommes en présence de deux mots, alors on va recourir au mal le moindre. Et le mal le moindre, c'est de se séparer, qu'il y ait un risque peut-être que le litige entre l'homme et la femme ne mène vers peut-être même à des situations graves telles que, je ne sais pas moi, l'homicide volontaire ou autre. Donc ça s'appelle Al-Amal bi Ahwan al-Dhararayn. Et ça, c'est une règle qu'on trouve, elle est issue de maqasid al-sharia, des finalités de la loi. Chaque fois qu'on est en présence de deux choses graves et on ne trouve pas d'autres solutions, alors qu'est-ce qu'on fait? On choisit par la balance, par le tarjih, le moindre mal, on appelle ça. Et donc le moindre mal, c'est la séparation. Bien que le principe en islam, même s'il y a des litiges au sein du couple, c'est d'être patient. Avant de recourir au divorce, de patienter. Et Dieu subhanahu wa ta'ala nous a parlé de cela lorsqu'il a parlé à l'homme, wa asan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, et en même temps en s'adressant à la femme. Et le verset de la sourate 4, le verset 19. Donc il y a peut-être un mal, mais il en résultera normalement un bien. Et beaucoup de savants musulmans et de gens pieux et de femmes pieuses en islam, malgré les situations difficiles qu'elles vivaient en famille ou qu'ils vivaient en famille, ils n'ont pas voulu recourir à ce halal, considérant peut-être que dans ce mal, il y a un bien. Et en même temps, parce que aussi, ils intégraient dans leur équation, ce que nous ne trouvons pas de nos jours, la question de la récompense de Dieu lorsqu'on est patient et qu'on ne veut pas exploser le noyau familial, surtout lorsqu'il y a des enfants, en bas âge en l'occurrence. Donc, la question maintenant qui se pose avant de développer, je ne sais pas si j'avais abordé ça la dernière fois, pourquoi est-ce qu'en islam, Dieu a-t-il fait en sorte que le divorce est entre les mains de l'homme? C'est l'homme qui divorce. Le principe, c'est l'homme qui divorce. Pourquoi? Bien que nous savons que la femme, elle est, comme j'ai dit dans la définition du contrat de mariage, elle est un associé. Et Sharika, c'est une partenaire, à part égale avec l'homme. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi hikmah, il y a une hikmah, il y a une sagesse, pour laquelle, ou il y a un maqsad, on va appeler ça, il y a une finalité, pour laquelle Dieu a voulu que c'est l'homme qui divorce en premier. Alors, ils ont dit, les savants, en essayant de comprendre le pourquoi, ils ont dit, le but en vérité, ou la finalité, c'est pour qu'on ne mette pas fin à ce lien matrimonial à la légère et très vite. Dans quel sens? Dans le sens que, on va parler terre à terre, hein, il ne faut pas parler d'une manière utopique et affective lorsqu'on parle de l'islam. L'islam est une religion qui se base sur un livre intelligible, kitab, que ne peuvent le comprendre que les gens sensés. Et que cette religion, elle fonctionne par l'argument. Et non pas, lorsqu'on l'aborde et qu'on en parle, il faut que ce soit des discussions passionnelles. C'est très dangereux. La Bouddha Minat Delil. Et donc, on va parler terre à terre. L'islam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans une demande de mariage, dans un mariage, qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme qui va vers la femme et qui la demande. Et je vous ai dit, ça, c'est un honneur. Rappelez-vous, lorsqu'on avait parlé de cette démarche, c'est pas parce que la femme est incapable, mais c'est un honneur que l'homme la recherche. Et elle accepte ou refuse sa démarche. Donc c'est l'homme qui fait la démarche, c'est l'homme qui est obligé légalement et islamiquement de payer la dot, le mahr que la femme définit, c'est l'homme qui est responsable de la prise en charge de la femme, malgré, même si elle dispose de moyens financiers et qu'elle est riche et aisée, mais c'est lui qui est obligé d'assumer nafaqa familiale. Donc cet homme qui investit, comme un commerçant qui investit, il ne va pas à la légère détruire son investissement. Et donc lorsqu'il va prendre la décision de mettre fin, c'est qu'il a bien réfléchi malgré tous les investissements qu'il a fait. De l'autre côté, on a une femme qui n'a pas investi sauf l'aspect affectif, on va appeler ça. Et donc, et qui est enclin à l'affectif. Et l'affectif n'est pas ici péjoratif, parce qu'on en parle du côté de la femme, même si c'est quelque chose d'important. S'il n'y a pas ce capital affectif, la femme ne pourrait pas supporter le fait d'être une mère. Ce qui en découle comme charge et responsabilité et sacrifice et douleur. Douleur vraiment dans le sens physique et psychologique. C'est parce qu'elle aime. Et donc, parfois, cet aspect affectif devient, si vous voulez, incontrôlable. Et lorsqu'il devient incontrôlable, alors la femme peut exprimer rapidement ce sentiment dans une affaire qui est très grave, qui est celle de l'union familiale. Alors l'islam dit, puisque Dieu subhanahu wa ta'ala connaît la femme et sa nature, comme il connaît l'homme et sa nature, il dit, cette précipitation affective peut nuire. Peut nuire, c'est pour ça qu'on ne donne pas à la femme la priorité au divorce. La priorité, j'ai dit exprès. Donc c'est pour que ça sous-entend que la femme a le droit au divorce, mais la priorité est donnée à l'homme. Mais la femme a le droit de divorcer. On reviendra à ça, inshallah. Et donc, que cette précipitation, si elle, on lui donne à l'homme, sur le même pied d'égalité, ce droit au divorce, ben, le ménage ne tiendra pas, peut-être même pas une semaine. Il suffit d'un petit désaccord, et elle lui dira, ben, je regrette de m'être marié à toi. Et c'est ce qu'on entend. Moi, comme marié, je l'entends. Mais bon, je sais que ma femme le dit sans le penser. Mais en islam, ça, rappelez-vous que le divorce, ce n'est pas une question de pensée. Lorsqu'on dit divorce, c'est divorce. Si on prononce ce mot, j'en avais parlé la dernière fois d'après les hadiths, Si un homme dit « je te divorce », on ne va pas lui dire « si tu le pensais, tu ne le pensais pas ». Il a dit « le mot anti-talaq ». Le divorce a lieu. D'où le fait, rappelez-vous, je vous ai cité un hadith et je reviendrai à ce hadith. « Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, thalathun jidduhunna jiddun, wa hazluhunna jidd ». Trois choses, si vous les dites sérieusement, c'est du sérieux. Et si vous les dites en plaisantant, c'est du sérieux. Et parmi lesquels il a cité, sallallahu alayhi wa sallam, at-talaq. Et nous allons revenir, inshallah, et on va expliquer ce que disent les juristes à partir du hadith, de ce qu'on appelle le talaq al-hazl, le divorce du plaisantin. Il plaisante en divorçant, le divorce est effectif. Pourquoi ? Parce qu'on ne doit pas plaisanter avec une chose aussi grave, qui est l'union familiale. Quelqu'un qui dit à sa femme, j'étais divorcé, puis dit, je rigolais, ben le divorce a eu lieu. On ne rigole pas avec des choses pareilles. Vous comprenez, ce ne sont pas des choses à sujet à rigolade, à plaisanterie. Comme lorsque vous dites la question de la foi en Dieu, elle n'est pas sujet à rigolade. Comme on voit certains musulmans et musulmanes blaguer avec des versets du Coran. C'est du domaine de la mécréance. On ne rigole pas avec le Coran. Il n'y a pas de blague avec le Coran, on ne peut pas. Parce que c'est du sacré. Et bien l'union familiale, elle est du domaine du sacré en islam. Et on ne vient pas la mettre. Alors pour que cette femme qui se sent lésée, ou parce qu'elle passe par une période du cycle menstruel, ou par la période de la grossesse, ou parce qu'il y a des frustrations familiales ou tout ce que vous voulez, et elle vient dire, je regrette de m'être mariée avec toi, talaqni, wala ana talaq, wala anta talaq, ben il y a une crainte que le mariage ne tiendra pas un jour. Et donc, à cause de cette précipitation affective, Dieu a donné la priorité du divorce à l'homme. C'est ça l'unique raison. Maintenant, une femme peut stipuler dans son contrat de mariage, si son mari est d'accord, la formule suivante. Elle dit, « Uridu an takuna ismati biyadi. » Je veux que ma vie matrimoniale soit entre mes mains. Et donc lorsqu'elle dit à son mari, je veux divorcer, il lui dit, bah tu es divorcé. C'est elle qui demande le divorce, elle lui dit, je me divorce de toi. Et lui, il lui dit, d'accord. S'il signe, et bien lorsqu'elle lui dit, je me divorce de toi, et lui dit, je te divorce, et bien le divorce est effectif. Et l'homme ne peut pas refuser. Ça c'est un, nous y reviendrons aussi le divorce par le khola, qu'on va en parler, qui est institué dans le Coran et dans la sunna de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, pour des raisons ou sans raison. Où la femme veut se séparer. Et puis, il y a des situations où la femme, bien sûr, dépose plainte auprès du juge, et lorsqu'il constate, on va venir, certaines situations, le juge divorce. La femme, même si le mari est en désaccord et n'accepte pas la règle, il sera obligé de la divorcer. Mais la seule raison, donc, c'est cet aspect affectif qui risque, en vérité, de mettre en cause une union qui mérite réflexion. Et lorsqu'une femme va demander le divorce alors qu'il s'agit par le biais de khula, elle va y réfléchir. On va revenir et expliquer le pourquoi. Donc, lorsqu'un homme divorce, il sait très bien que le lien il n'est pas définitif. Il est révocable et que pendant la période de viduité, il est toujours sa femme, il y a pension alimentaire et si entre-temps il meurt et est veuvage, elle a le droit à l'héritage. Il y a des tas de choses qui en découlent. Et donc, lorsque l'homme le dit, donc comme j'ai dit, c'est que vraiment, il est assuré. Ne prenons pas maintenant la situation exceptionnelle des jeunes d'aujourd'hui qui prononcent le divorce à la légère, parmi les hommes. On a beaucoup d'hommes dans notre communauté qui prononcent le divorce à la légère. Ce sont des gens qui n'ont pas compris ce que veut dire la responsabilité. Et c'est pour ça qu'en vérité, lorsque Dieu a parlé du mariage, rappelez-vous, je vous ai dit, il n'a pas parlé à Rasoul Sallam de mâle, mais il a parlé d'homme capable de dépenser. Le mariage, il s'adresse aux hommes qui sont capables d'assumer cette responsabilité de la famille et capables de subvenir aux besoins. Il n'a pas dit celui d'entre vous qui est zakar, qui est mâle, qu'il se marie, a dit Rasoul Sallam. Il a dit celui qui est capable d'entre vous d'assumer les charges familiales, qu'il se marie. Et pour assumer les charges, c'est qu'on a déjà sa tête sur ses épaules et qu'il y a une certaine maturité. Donc voilà, donc ça c'est pour vous expliquer le pourquoi de cette priorité. Autre chose aussi, c'est que lorsque l'homme il divorce, il sait qu'il doit à sa femme, s'il a des enfants, il leur doit une pension alimentaire jusqu'à leur puberté. Et donc lorsque quelqu'un il va divorcer, ben, il sait que le lien matrimonial, d'accord, est rompu, mais le lien avec les enfants et ce ménage-là n'est pas fini. Donc il va s'engager dans une vie de couple nouvelle, une nouvelle vie de couple, mais il va avoir en charge les enfants jusqu'à l'âge de la puberté pour les garçons et les filles jusqu'à leur mariage. Le père qui divorce sa fille est à sa charge jusqu'à ce qu'elle se marie. Et le père qui divorce son fils, le garçon, il est à sa charge jusqu'à ce qu'il devienne capable d'être indépendant et de gagner sa vie. Alors vous imaginez quelqu'un qui divorce et qui a 4 enfants, qu'est-ce que ça veut dire comme charge? Et il veut, de l'autre côté, se marier, de nouveau fonder un foyer. Donc s'il a pris cette responsabilité, c'est qu'il a très 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 bien réfléchi et qu'il n'y a plus de solution. Moi je parle de la règle. Donc c'est pour cette raison que al-maslaha, l'intérêt en vérité, fait que Allah subhanahu wa ta'ala a considéré que le divorce soit en priorité entre les mains de l'homme, parce que c'est l'homme qui va subir plus de dommages matériels, plus que la femme dans cette affaire. Et donc, s'il s'engage, c'est qu'il a bien réfléchi sur les conséquences. Et si, comme je vous ai dit, j'ai lancé un petit mot tout à l'heure, j'ai dit c'est un maqsad, c'est une des finalités de la loi, et la finalité, en vérité, c'est-à-dire derrière laquelle il y a un intérêt, une maslaha. Et les finalités de la loi, c'est une grande science maintenant à laquelle on a recours de plus en plus de nos jours. Les savants musulmans contemporains, ils ont de plus en plus recours à cette forme de, à cette science, et d'où est né actuellement ce qu'on appelle al-ijtihad al-maqasidi, un ijtihad qui se base sur les finalités de la loi de plus en plus. Et donc ils disent qu'il y a les grandes finalités de la loi qu'on appelle maqasid al-amma, les finalités, les buts fondamentaux de la loi, tels que par exemple le principe de la fraternité, la liberté, l'égalité, la justice, ça c'est des fondements, ce sont des finalités fondamentales de la loi, maqasid amma. Mais ils disent, nous savons qu'il y a des maqasid juz'iyya, il y a des finalités particulières, à quoi? À des sentences. Donc il y a chaque sentence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a énoncé, il y a derrière un maqasid, une finalité du législateur. Et parmi les finalités de ce mars, par exemple, ici nous sommes en train de parler du divorce, et bien al-maslaha, c'est al-maqsad al-juz'i, la finalité particulière ici, c'est vraiment de préserver le couple. Et c'est pour ça qu'on a donné la priorité à l'homme. Et lorsqu'on parle de maqasid, de finalité de loi, ce sont des choses qui sont immuables, qui ne changeront jamais. Tel que fait, par exemple, Dieu a décidé qu'au niveau de la désuccession, l'homme a 2 parts par rapport à 1 part pour la femme. Il y a un maqsad, il y a une finalité. Cette finalité, elle est immuable. Et elle ne changera jamais. Nous, on vient nous parler au nom de l'égalité, qu'il faut qu'il y ait égalité du partage des successions. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala dit que non. Al-maslaha, c'est de garder cette différence. Pourquoi? Parce que la règle est très facile en termes de mathématiques, de comptabilité, si vous voulez. Nous avons un homme qui investit. Pour se marier, c'est lui qui doit déposer la dot, c'est lui qui doit subvenir aux besoins de la famille, c'est lui qui doit s'occuper de ses parents, s'ils sont à sa charge, nous sommes d'accord. Et en cas de divorce, il y a encore une continuité de la prise en charge au niveau des enfants, donc il a plus de dépenses, et on a de l'autre côté une femme qui reçoit une dot, et lorsqu'elle reçoit des parts d'héritage, sa part d'héritage, elle n'est pas obligée ni d'en dépenser pour sa famille, ni d'en donner à ses parents. Les parents sont à la charge des garçons, pas des filles. Islamiquement, obligatoirement, ils sont à la charge des garçons. Alors lorsqu'on fait on compare les dépenses et les charges de l'homme et les dépenses et les charges de la femme qui sont zéro et les dépenses de l'homme qui sont importantes, il est tout à fait normal que l'équilibre fait qu'on va lui donner plus de ressources parce qu'il a plus de dépenses. Et on va donner moins de ressources à celle qui a moins de dépenses. Voilà la cause. C'est taklif. L'homme, il est chargé de responsabilités qui nécessitent qu'on lui donne plus de possibilités pour subvenir à ses besoins. Dans le cas, il reçoit de l'héritage. Hein. Parce que c'est pas tout le monde qui reçoit un héritage. Dans le cas où il reçoit, mais la grande majorité des gens sait qu'ils ne reçoivent rien du tout. Donc, le principe est un principe d'égalité. Un. Deux, pour votre culture générale, sachez que dans beaucoup de situations, la femme elle reçoit plus que l'homme. Ça, c'est une règle de base. Que l'homme reçoit de part et la femme une part. Mais est-ce que vous savez que la mère, elle, la grand-mère, elle reçoit plus que les enfants? Mal. C'est-à-dire, nous avons un homme qui décède, il laisse une épouse, une grand-mère, une maman, une épouse, des garçons et des filles. Et bien, dans le partage de l'héritage, la grand-mère reçoit plus que les enfants, les garçons. Et dans ce partage, la mère des enfants reçoit plus que ses enfants. Donc, ce n'est pas la femme qui est lésée. Le partage, c'est entre frères et sœurs que Dieu a donné plus. Mais la femme, dans le partage de l'héritage, reçoit plus que les hommes. Vous faites un calcul, vous avez 240 000 euros, la mère doit recevoir le 1 sixième de l'ensemble, l'épouse va recevoir le 1 huitième, et puis le reste est partagé entre les filles et les garçons, deux parts pour les garçons et une part pour les filles. Vous allez voir que dans cette affaire-là, c'est la grand-mère qui est la gagnante. Et puis après, c'est l'épouse qui est la gagnante. Puis viennent les fils, puis viennent les filles. Donc les gens qui parlent comme ça d'une manière abusive, l'islam est injuste envers la femme, ils n'ont rien compris. Non, c'est lorsqu'il s'agit de partage entre frères et sœurs, c'est tout. Et pourquoi? Parce que il y a ces responsabilités, ces charges qui incombent à l'homme plus qu'à la femme. Voilà les seules raisons. Donc, et ici, comme vous voyez, il y a une motivation, il y a une autre justification, donc qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que c'est l'homme qui divorce et qui a la priorité au divorce et non pas la femme. Donc quel est le statut du divorce en islam? J'ai dit tout à l'heure, c'est un halal mais que Dieu désapprouve, d'après le hadith. Inna abghadha al-halal 'inda Allah at-talaq. Son statut, c'est la répréhension, makruh. C'est le statut juridique du divorce, al-karaha ou al-karahiya. Al-karaha, de la répréhension, malgré qu'il est permis. Mais c'est un makruh. Alors c'est quoi le makruh de point de vue science de usul al-fiqh? Le makruh, c'est l'acte. Si vous vous y adonnez, vous n'êtes pas sanctionné. Je parle de sa définition de base. Si vous vous y adonnez un acte répréhensible, vous n'êtes pas sanctionné. Mais si vous ne vous y adonnez pas, vous êtes récompensé. Donc, la yu'aqabu ala al-fi'l wa yuthabu ala al-tark. Vous n'êtes pas puni si vous le faites et vous êtes récompensé si vous ne le faites pas. Le recommandé, c'est le contraire. Al-mandoub ou al-mustahab. Al-mandoub, mustahab, c'est lorsque vous le faites, vous êtes récompensé, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas sanctionné. Ça, c'est la définition du base du makruh. C'est clair? Donc, il n'y a pas sanction. On vous dit, par exemple, vous faites la prière, et pendant la prière, vous levez votre tête vers le haut. C'est un acte répréhensible, mais vous n'êtes pas puni. Parce que c'est un acte qui n'est pas conforme au recueillement et aux attitudes de l'humilité qu'exige la prière. Donc, c'est ça le makruh. Donc, la grande majorité des juristes malikites, shafi'ites, hanbalites disent donc que le divorce, il est par principe, il est permis, mais il est préférable de ne pas s'y adonner. Mais il est préférable, c'est-à-dire de supporter, d'être patient. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, sabr. Et il y a de la récompense. Pourquoi? Ils disent parce que lorsqu'on divorce, c'est quoi? On rompt des liens. Des liens quoi? Des liens consanguins. Surtout lorsqu'on sait comment ça se passe dans les divorces maintenant, où les enfants sont pris en otage entre père et mère. Il y a des liens d'alliance, malgré que l'homme et la femme ne s'entendaient pas ou ils ne s'entendent plus, mais avec les grands-parents, ou avec les beaux-pères, les belles familles de l'autre côté, de chaque côté, il y a une entente, il y a des gens qui s'entendent bien. Donc on va casser tout un lien au niveau du consanguin et au niveau de l'alliance. Et les enfants surtout, c'est eux qui vont en pâtir. C'est pour ça on ne le permet ou on ne l'accepte que s'il y a une cause réelle qui justifie vraiment le fait d'y recourir. Et c'est pour ça, même certains savants disent, d'accord, la position de base c'est annahu makruh, mais parfois il peut devenir obligatoire. Si on sent que dans ce lien, si on, les, on laisse perdurer ce lien, il y a un risque pour de bons dangers de mort. À ce moment-là, il vaut mieux qu'on les incite à divorcer et même qu'on les oblige, qu'on arrive au massacre. Donc, comme on a dit, donc il peut, le principe de base, c'est la répréhension, mais il peut devenir obligatoire. Il peut devenir haram, interdit. Lorsque le type il a décidé de divorcer, pourquoi? Parce que sa femme qui a galéré avec lui pendant 40 ans, subitement elle ne lui plaît pas, et il la largue alors qu'elle a 60 ans ou 50 ans, pour aller épouser une plus jeune, et elle se trouve sans aucun soutien, sans aucun appui. C'est un acte interdit. Mais est-ce que le divorce est valide? Oui. Comme on a parlé par exemple des fiançailles, celui qui va demander la main d'une femme déjà fiancée, il commet un interdit, on a dit. Mais le contrat, il est valide, sauf l'imam Malik dit en effet, parce qu'il est allé à l'encontre du hadith de Rasulullah, il est allé dans l'élite aussi. Mais la position majoritaire, le contrat, il est valide, mais il a commis un haram. Donc il sera puni par Dieu, parce qu'il est venu, quoi, il a détruit une démarche d'un musulman honnête et à qui on avait confié, accordé la main, et lui, qu'est-ce qu'il est venu là, détruit ce lien-là, et donc ça suscite rancune entre les frères, alors que ce lien de la fraternité, il est un sacré. Mais s'il se marie, cette personne qui a demandé la main d'une femme qui est déjà fiancée, si se marie, son mariage, selon la majorité, il est valide. Mais il a fait un haram. C'est clair? Donc ici, la même chose. Ici, donc, si c'est sans raison, ben, le divorce est valide, mais la personne sera considérée comme quelqu'un qui a fait un péché parce qu'il a fait un acte qui est non conforme à l'esprit même du divorce et Dieu le punit pour cela. Ça va? Donc je répète, la position de base, c'est la répréhension, malgré qu'il est permis, mais il peut, le divorce peut devenir obligatoire comme il peut devenir interdit. Obligatoire lorsqu'on sait qu'il peut, si on fait durer le lien matrimonial, il y a un risque, danger de mort, par exemple. Et il peut devenir haram s'il n'est pas justifié ni motivé. Comme ça, un coup de tête pour rien du tout. D'où le hadith que vous connaissez du prophète sallam. Et le hadith, il a été dit par le sallam dans le sunan, pas pour dire que la femme, elle sera en enfer, parce qu'il y a un hadith qui dit, la femme qui demande son divorce sans justification, elle ne sentira pas l'odeur du paradis. On en parlera de ce hadith. Le hadith, il existe, il est réel. Mais ça veut dire que pour de bon, elle ne sentira pas l'odeur du paradis? Non, pas du tout. Les savants disent, l'explication du hadith, c'est qu'elle a fait quelque chose de grave qui déplaît à Dieu. Comme le hadith de la sallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr. Le fait d'insulter un ou une croyante, c'est de la perversion. Le fait de se battre contre lui, c'est de la mécréance. Tous les savants sont unanimes que ce n'est pas parce qu'on a tué un musulman qu'on est mécréant. Pas du tout. Et ils justifient leur commentaire de ce hadith par le verset de la sourate Al-Hujurat, où Dieu n'a pas enlevé la qualité de la foi aux musulmans qui se battent. Il a dit, ce sont deux groupes de croyants qui se combattent. S'ils étaient mécréants, on n'aurait pas jamais dit leur donner le qualificatif de croyants. Dans sourate Al-Hujurat 49. Donc le fait que Dieu ne leur a pas enlevé la qualité de la foi veut dire qu'ils sont toujours croyants. Mais ils ont fait un acte grave vers lequel ils risquent d'être punis par le feu. Oui. Mais ils ne seront jamais éternellement au feu. Puisque les hadiths sont clairs que les croyants ne seront jamais éternellement au feu. Mais si Dieu décide de les punir, c'est par rapport à ce qu'ils ont commis comme délit et péché. Mais pas, ils seront éternellement dans le feu. Donc c'est ça. Donc ils disent, le prophète Sosam a formulé ce hadith à l'encontre d'une femme qui demande son divorce sans raison. C'est pour montrer que c'est un acte grave qu'elle fait. Mais pas, c'est-à-dire réellement, elle ne sentira pas l'odeur au paradis. Non, pas du tout. Ça va? Donc c'est dans le sens, c'est ça, c'est pour ça que je vous dis. Donc il peut subir. Il peut subir donc toutes les sentences. Un homme qui divorce sa femme dans un état de... par exemple, durant ses menstrues. Ce divorce, on va revenir, il s'appelle un divorce bid'i. Un divorce d'innovation. Parce qu'il a divorcé sa femme dans une situation anormale où la femme elle est perturbée à cause de ce qu'elle subit physiquement. Et donc peut-être elle l'a, on va dire, provoquée, elle a été pas correcte à cause de cela. Et l'homme, au lieu de comprendre cette situation psychologique et physique de la femme, il la divorce. Le divorce a lieu, mais l'homme a commis un haram. Donc lorsqu'un homme divorce sa femme pendant ses règles, il a commis un acte interdit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré ça comme un acte de bid'a, d'innovation. Et vous savez, l'innovation est un acte haram. mais le divorce a lieu. Il a lieu, mais il a commis un interdit. Donc c'est pour ça qu'un divorce réel doit se passer quoi? Dans une période où la femme elle est dans son, sa période de purification cyclique, tor, et qu'il n'y a pas eu de rapport. Ça c'est le divorce convenable. Mais un homme qui divorce sa femme alors qu'il y a eu des rapports, dans ce cycle-là, il agit d'une manière non conforme, il n'a pas respecté toute cette intimité, et un homme qui divorce sa femme pendant son cycle menstruel ou pendant sa grossesse, il commet un acte aussi non conforme. Ah, la sunna de Rasoul Salam, c'est pour ça qu'on appelle ces formes de divorce des divorces talaqun bid'i, divorce d'innovation. Parce que le divorce sunni, conforme à la sunna, doit se passer comme je viens de le dire. Le divorce qui est convenable, c'est lorsqu'il est accompli et lorsqu'il est fait par une seule formulation. C'est-à-dire, l'homme, si pour de bon, il est sûr, etc., il dit « anti taliqun ». C'est tout. C'est ça la règle. S'il dit « anti taliqun, taliqun, taliqun » trois fois, ou il dit « anti taliq bithalath », il a agi d'une manière non conforme à la sunna de Rasulullah sallam et ce que Dieu a énoncé dans le Coran. Donc la formule doit être celle de talqatun wahida. Une seule, donc une énonciation et non pas à plusieurs. Bien, donc j'explique maintenant, comme j'ai dit, avec détail ce que veut dire talaq al-bid' et talaq sunnah. Avant de passer donc à l'explication des conditions pour que le talaq ait lieu. Donc le talaq sunnah, donc le talaq conforme à la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, c'est celui qui se passe selon les règles et les démarches prescrites par le législateur subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager alayhi salatu wa salam. C'est que l'homme divorce de sa femme avec laquelle il a consommé son mariage, donc un divorce par une seule énonciation dans une période cyclique où il n'a pas eu de rapport avec elle. Pourquoi? Parce que lorsque un homme divorce sa femme dans une période de purification cyclique durant laquelle ils n'ont pas eu de rapport, il agit avec respect. C'est qu'il ne va pas l'obliger à rester plus dépendant de lui. Sa haine va être plus courte. Puisque dès que le cycle revient, vient, donc on compte. Et puis il n'a pas été injuste envers elle parce qu'il a pris en considération son état psychologique et physique. Donc c'est ça ce qu'on appelle, donc Dieu dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Baqara, pour nous apprendre que comment doit ce divorce avoir lieu, la surat 2, le verset 129, At-talaqu marratani fa amsakum bima'rufin aw tasrihum bi-ihsan. Le divorce doit se passer par deux fois, taliqun, puis après taliqun, troisième fois, c'est fini. Et après, soit on vit dans le respect et le bien, soit on se sépare dans le respect et le bien. Al-ma'ruf veut dire ici le bien. Al-ma'ruf, c'est tout ce qui est considéré bien. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Et le bien tel qu'il est défini par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Hadha ma ma'na al-ma'ruf. Donc, le divorce sunni, c'est qu'on divorce, puis il y a révocation. On appelle rija. C'est-à-dire, ils reprennent vie. Et puis, la samaha Allah, il y a de nouveau un divorce. Puis rija. Révocation, vie commune, avant que ne s'achève la période de viduité, l'adda, de trois cycles ou de trois mois. Ils reprennent vie, on reviendra à comment ça doit se passer, rija, par respect à la femme aussi. C'est pas, il divorce, puis après il vient manger avec elle et c'est fini. Non, il y a certains savants qui existent certaines conditions, par respect à la femme, qu'il y a révocation et non pas tallaq otrol, comme si c'est n'importe quoi. Ça c'est du jeu, il y a un manque de respect. Malgré qu'on lui donne la priorité, mais il y a des règles. Il y a des règles à respecter. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate At-Talaq 65 verset 1, إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez divorcer les femmes, divorcez-les alors qu'elles vont commencer leur idda. Et la idda commence lorsqu'il n'y a pas eu de rapport. Hop, le premier cycle, le premier menstrue, il est comptabilisé et sont comptés. Les exégètes, ils ont expliqué ça. Mustaqbilat, c'est-à-dire, elles vont devant le cycle qui va venir. C'est la démarche convenable. Et donc, avec une seule énonciation, alors pourquoi, comme j'ai dit, c'est pour que la Hedda ne se prolonge pas, ou par le risque que la femme ne sait plus comment est-ce qu'elle va faire sa Hedda, la calculer. Alors qu'il est plus facile, lorsqu'il n'y a pas eu de rapport dans un cycle, de compter directement, soit un cycle, le troisième, ou de compter en termes de mois. Le talaq al-bid'a, c'est quoi? C'est le talaq non conforme à la loi. Comme j'ai dit, soit il la divorce par une triple prononciation séance tenante. Dans la même assemblée, il dit trois fois, t'es divorcé. Ou il va la divorcer pendant son cycle menstruel, ou alors qu'elle est enceinte, ou dans un cycle durant lequel il y a eu des rapports conjugaux. Et les savants sont unanimes que le musulman qui s'adonne à un divorce durant ces situations-là, il a commis un péché et il a commis un interdit. C'est Abdullah ibn Omar avait divorcé de sa femme pendant son cycle, le prophète était en colère contre lui. Et donc, il lui a demandé de la reprendre, mais le divorce a été comptabilisé. Et le fait que notre prophète a exprimé son désaccord, son mécontentement, montre bien le sens de cette attitude. C'est la position de la majorité, donc, que le divorce a lieu. Concernant Ibn Omar, qui a divorcé sa femme pendant son cycle, et le prophète lui a ordonné de la reprendre, mais il a comptabilisé, le hadith est rapporté par l'imam Muslim, Nasa'i, Ibn Majah et Abu Daoud. Donc les trois sunan, donc Muslim dans son sahih, et Nasa'i, Ibn Majah et Abu Daoud. Les seuls qui considèrent que le divorce n'a pas lieu, s'il a eu lieu pendant le cycle menstruel par exemple, c'est Ibn Taymiyyah et Ibn Al-Qayyim et Ibn Hazm. Et ils considèrent que le divorce n'a pas eu lieu. Maintenant, c'est le mufti qui doit prendre sa responsabilité pour dire « Moi, j'appréhende la position de la majorité ou la position d'Ibn Hazm et d'Ibn Taymiyyah et Ibn Al-Qayyim. » C'est pas nous qui devons dire « Ouais, mais Ibn Taymiyyah qui a dit Ibn Al-Qayyim, on assume. » Non, il faut que tu t'adresses à une autorité musulmane de qualité au niveau de son savoir et honorable, les deux. N'oubliez jamais ces deux qualités qui doivent exister dans le mustafti. Il faut qu'il soit « Aliman wa adlun ». Il faut qu'il ait du savoir et qu'il soit honorable. Parce que vous avez des savants qui ont le savoir, mais ils ne sont pas oudoul, ils ne sont pas honorables, comme ulama salatin, comme les ulama des savants, des pouvoirs injustes et des tyrans. Il faut qu'il y ait les deux qualités. Il faut qu'il y ait l'ilm ou l'adala. Donc le savoir et l'honorabilité. Pour qu'on puisse, devant Dieu, dire « Seigneur, moi je me suis adressé à un des héritiers de Rasulallah sallam. » Comme a dit le prophète sallam, al ulama ou warathat al anbiya, les savants sont les héritiers du prophète, des prophètes. Et tu dis, Seigneur, moi je suivais ce savant, c'est lui qui m'a donné cet avis juridique, je ne suis pas dans le haram. À ce moment-là, vous êtes couvert. Mais si vous allez chez n'importe qui, un pseudo-savant qui a vendu sa vie et son au-delà pour quelques miettes, et vous dites, Seigneur, je me suis adressé à un tel, Dieu sait que vous avez cherché un tel parce qu'il vous plaît dans ce qu'il va vous donner comme facilité, même si elles sont non conformes à la loi de Dieu. Donc vous devez savoir à qui vous devez vous adresser, comme ça vous êtes à l'abri de la colère de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc Ibn Taymiyyah, donc pourquoi? Parce qu'ils ont dit non, nous ne considérons pas que cette situation elle rentre dans le sens et la sentence générale du divorce. La majorité disent at-talaq bil umum, il y a un sens général du divorce et cette situation est inclue. Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Hazm disent non, cette situation de divorcer pendant le cycle menstruel ou pendant les lochis, on la sort de la règle générale des divorces et c'est pour ça que nous considérons qu'il est invalide. Parce que Dieu dit subhanahu wa ta'ala, fataliquhunna li'iddatihinna, ils disent. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché contre Ibn Omar et vu que ceci a déplu à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est une preuve, donc c'est un divorce invalide. C'est ça les arguments avancés. Il cite aussi certains parmi les compagnons, ceux qui considèrent ce divorce invalide, Ibn Omar lui-même, Ibn Abbas, radiallahu anhum, ainsi que parmi les tabi'in, les compagnons de compagnons, Saïd ibn al-Musayyib et Taous, ce sont des grands tabi'in, donc ces deux-là considèrent le divorce invalide, donc comme s'il n'a pas eu lieu. On le dit pour l'honnêteté scientifique, et comme ça vous savez quels sont les avis. On nous dit que c'est un des deux avis de l'imam Ahmad. Je vous ai dit une fois pourquoi parfois on se trouve devant deux avis. Mais parce que les élèves de l'imam Ahmad, chacun a reçu des réponses, et alors chacun dit, mais je l'ai entendu dire ceci. Alors pas, les savants de l'école sont honnêtes, ils disent, eh ben nous on a deux versions qui nous ont été rapportées de notre imam. Et on trouve ça même chez l'imam Shafi'i ou chez l'imam Malik. Donc c'est l'honnêteté qui fait que les élèves, si je peux dire, les maîtres de l'école, sont honnêtes en rapportant ce que leurs savants ont consigné d'après leur maître. Et c'est pour ça que vous trouvez parfois, on vous dit, même parfois, l'imam Ahmad, il a trois versions. C'est pas lui qui a trois versions, c'est ce que nous a rapporté d'après lui. On a trois versions. Et ça, c'est un travail à faire, quel est vraiment l'avis le plus fondé qu'il a dit. La même chose, lorsque vous entendez qu'on vous dit ce hadith n'a pas été authentifié, ou que cette citation, on n'a pas de preuve qu'elle est rapportée d'après Ali, c'est pas Sayyidina Ali qu'on met en cause. C'est-à-dire, c'est la chaîne qu'on met en cause. On vous dit, le hadith d'Ali est faible. C'est pas Sayyidina Ali qui est faible dans l'affaire. Hein. Non, celui qui attribue la position à Sayyidina Ali ou le hadith, c'est lui qui est faible, mais pas la personne du compagnon. Donc ici, donc c'est pas la personne de l'imam Ahmad qui s'est exprimé trois fois, sauf l'imam Shafi'i. Oui, l'imam Shafi'i, comme vous savez, il avait deux tendances sur beaucoup de questions. Il avait s'est exprimé d'une manière lorsqu'il vivait en Irak, et lorsqu'il est allé après vivre en Égypte, le contexte est différent. Sur les mêmes questions, il a donné d'autres avis. Alors c'est pour ça que vous trouvez dans le livre des Shafi'ites, « Hadha madhab al-qadim », ça c'est l'ancienne position de l'imam Shafi'i, et on dit « Hadha madhab al-jadid », ça c'est sa nouvelle position. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe chez les savants qu'ils connaissent eux mieux que nous, c'est que la fatwa, la vie, il change par rapport au lieu, aux circonstances, aux personnes. Alors ils disent « Al-fatwa tatarayyaru bitaghayyuri al-zamani wal-makan ». La vie, il change par rapport au lieu et aux circonstances. On parle parce qu'on parle d'avis. Et l'avis, c'est un ijtihad, c'est un effort. C'est pour ça que l'imam Shafi'i s'est trouvé devant une autre réalité, d'autres circonstances. C'est pour ça qu'il a donné d'autres avis que ce qu'il avait prononcé à Bagdad sur les mêmes questions. Ça montre sa prise en considération de la réalité et sa connaissance de la réalité. Donc, parmi les situations que considère aussi talaq bid'i, c'est lorsqu'un homme divorce sa femme alors qu'elle est enceinte. C'est un divorce d'innovation, de divorcer sa femme alors qu'elle est enceinte. Et le hadith est rapporté donc par Muslim. Vous savez très bien, on va y revenir, que la femme enceinte, la sa'ad est finie dès qu'elle accouche. Elle n'a pas à attendre les trois cycles après, en plus. Comme la femme qui n'est pas enceinte, qui doit faire la idda. Iddatuha, c'est wad'uha. C'est-à-dire, la samahallah, que Dieu préserve toute famille musulmane, le type, il divorce sa femme aujourd'hui, et elle accouche demain. Demain, elle peut aller se marier avec quelqu'un d'autre. Elle n'a plus aucun lien avec lui. Fini. Même si elle a divorcé une seule fois. Son divorce devient un divorce effectif, irrévocable. C'est-à-dire, il devient étranger. Dès qu'elle accouche, il est étranger. Il n'a plus aucun lien avec elle. Tandis que lorsqu'on parle d'un divorce d'une femme qui n'est pas enceinte, eh ben, pendant les trois cycles menstruels, elle vit avec lui, elle est encore sa femme. Elle vit dans le domicile conjugal. Elle est à sa charge. Et c'est pour ça qu'il peut la révoquer, ils peuvent consommer, cohabiter, continuer à vivre ensemble. Tandis que, mais après la période de l'Idda, si les trois cycles menstruels sont passés les trois mois, ils n'ont pas cohabité, il n'y a pas de révocation, ils ne sont pas réconciliés. À la fin de son troisième cycle, elle devient étrangère à lui, elle s'en va. Elle dispose de sa vie, et s'il vient lui dire « je m'excuse, je veux te reprendre » même deux jours après le troisième cycle, eh ben, elle a le droit, et c'est ce que normalement doivent faire les femmes, mais beaucoup de femmes ne le savent pas, c'est un nouveau contrat, c'est une nouvelle dot, c'est un nouveau mariage. Il devient étranger, ajnabi, dans le vrai sens du terme. Foulard doit le porter devant lui et il n'a plus le droit à rien d'elle. Dès que la idda est finie. Donc, talaq al-hamil, le fait de divorcer d'une femme enceinte, est un divorce d'innovation non conforme à l'esprit de l'islam, surtout lorsqu'on sait qu'est-ce que la femme subit pendant cette période-là, et c'est pour normal qu'elle soit perturbée. Et alors, un homme qui ne comprend pas toute cette difficulté physique et psychologique que traverse la femme pendant sa grossesse, et il devient, parce qu'elle est irritable et tout, il divorce, ben c'est un homme qui normalement il n'a pas été apte au début normalement à se marier, parce qu'il n'a pas compris l'évolution de corps de la femme et tout ce qu'elle subit. C'est pour ça que nous appelons toujours les frères, surtout les jeunes, avant de se marier, d'étudier et de bien lire, et de bien, etc., franchement, d'essayer de comprendre la personnalité de la femme. Et on demande la même chose aux femmes, de bien lire des livres que leur expliquent la personnalité de l'homme, pour qu'elles puissent savoir s'adapter. Un homme n'est pas une femme, et une femme n'est pas un homme. Ils ont des caractères différents, une psychologie différente, et il y a des livres qui parlent de la psychologie de l'homme, de la psychologie de la femme. Il faut les lire, surtout pour les jeunes qui veulent se marier. Ainsi, ils éviteront vraiment de se trouver dans une situation où ils vont détruire leur ménage pour des futilités. Et pour croire que on croit que ma femme, elle a dit ça parce qu'elle ne m'aime pas, alors que pas du tout, elle ne le pense pas. Et c'est pour ça que celui qui divorce parce que sa femme dit des choses, il n'a rien compris à la femme. Les femmes disent beaucoup de choses qu'elles ne pensent pas, surtout à leur mari. Alors si chaque fois on va dire oui, ce qu'elle dit c'est vrai, aucun ménage ne tiendra. Bien, ça c'est donc pour ce qui est de cette question de talaq bid'i ou talaq sunni. Alors, quelles sont les conditions du divorce pour qu'il ait lieu? Premièrement, c'est normal, il faut que l'homme qui divorce soit quelqu'un de, comme il a été au moment de son mariage, quelqu'un de pubère, sain d'esprit, il ne subit pas de contraintes. Très important, on dit ça. Il ne doit pas subir de contraintes pour divorcer. Il n'y a qu'un mukhtar, hor. Parce que le divorce sous la contrainte est invalide en islam. L'imam Malik a fait cet avis, il l'a exprimé, c'est à cause de cet avis qu'il a été persécuté et torturé. Frappé par le gouverneur de Médine à cause de cette position. C'est qu'il ne validait pas talaq al-mukrah. Donc un homme qui oblige, ou une autorité qui oblige un homme de divorcer, et puis après sa femme, elle est mariée avec quelqu'un d'autre, ou on se marie avec, c'est une relation de fornication de zina, parce que le divorce n'a pas eu lieu, n'a jamais eu lieu. Donc ils disent, pour que le divorce ait lieu, il faut que le mutalliq, celui qui fait l'acte de divorce, soit quelqu'un de pubère, sain d'esprit, et libre de son choix. Il n'y a pas de contrainte, mukhtar. Bien sûr, musulman, ça on ne va pas en parler, puisque le musulman est une condition qu'un homme épouse une musulmane, il faut qu'il soit musulman. Donc, le divorce nécessite en vérité les mêmes conditions pour ce qu'on appelle les assisements et les actes, on va dire, de relationnels, que ce soit au niveau des transactions financières ou autres. Il est du domaine de ce qu'on appelle le tasarrufat, les agissements qui nécessitent bien sûr que la personne soit responsable et libre de son choix. Puisque c'est que lorsque c'est quelqu'un qui va défaire quoi? Un acte. وَعَقَدَ عَقْدًا et puis va défaire l'acte. Et pour défaire un acte, donc, c'est un agissement qui nécessite une responsabilité. C'est pour ça que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui divorce alors qu'il ne sait pas ce qu'il fait, au moment où il le dit, son divorce n'est pas valide. قَالَ sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith très connu, لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقَ. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de libération du captif. Quelqu'un qui libérait, lorsqu'il y avait avant les captifs, le prophète, l'islam a encouragé, bien sûr, la libération pour mettre fin à l'esclavagisme qui existait, on en avait parlé d'avant l'islam. Et donc, il a dit, on ne peut pas accepter si la personne, elle est inconsciente de ce qu'elle fait. Il faut qu'elle soit consciente de ce qu'elle fait pour qu'elle assume les conséquences de cet agissement. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud, wal al-Hakim. L'irlaq aussi veut dire la colère intense, où la personne ne sait plus faire la différence de ce qui se passe autour d'elle. On va revenir avec plus de détails, parce que cette question, elle se pose toujours, elle nous est posée toujours. Mon mari m'a divorcé alors qu'il était en état de colère. Et ici, le prophète sallam a dit quel type de colère? Il a dit irlaq. C'est-à-dire une colère où la personne ne sait plus faire la différence entre ce mur et cette table. C'est-à-dire, c'est une sorte de colère qui se ressemble à la folie. Il est dans un état d'hystérie totale, il ne sait plus ce qu'il dit. À ce moment-là, le divorce n'a pas lieu. Mais on va revenir avec détail, inshallah. Mais la personne qui, même en colère, mais elle sait ce qu'elle dit, elle est consciente, son divorce a lieu. Donc c'est pas toute colère. Elle n'a pas dit ravab. Le ravab, tout le monde se met en colère. On se met en colère contre même nos enfants, contre nos voisins, contre un frère ou une sœur. Mais c'est pas une colère où on devient comme un dingue. C'est pour ça que le prophète sallam, il n'a pas dit fi halati ravabin. Il n'a pas dit la talaqa fi ravabin. Il a dit la talaqa wa la a'taqa fi ighlaq. Maghlouq, il est fermé. Vous voyez le terme même marlour. La personne elle est tellement fermée qu'elle ne voit plus rien autour d'elle, ce qui se passe autour d'elle. Celui-là, bien sûr, comme j'ai dit, donc son divorce n'a pas lieu, c'est un état presque de folie. Et donc, mais comme j'ai dit, on reviendra à ce détail, inshallah, un peu plus tard. Donc ça, concernant donc les conditions. Alors, que veut dire Ar-Rija? La révocation. Donc on a divorcé, la personne elle est consciente, elle n'est pas sous une contrainte, elle est pubère, saine d'esprit, il n'y a pas de colère, elle n'a pas fait un acte de talaq bid'i, mais un talaq sunni, comme nous l'avons dit. Et puis on lui dit en islam, donc le talaq sunni c'est que tu divorces et il y a possibilité de faire le muraja, de révoquer son épouse. Donc, Ar-Rija'atu, donc dans la langue arabe, qu'on voyait le terme lui-même, la racine, c'est du verbe Raja'a, revenir. C'est comme s'il revient sur ce qu'il a dit. Mais comme j'ai dit, mais ça n'efface pas juridiquement les effets de ce qu'il a dit. C'est-à-dire le divorce a eu lieu. Mais il revient sur la décision, c'est-à-dire de la séparation réelle. Mais le mot, elle est dit, donc il assume. Et donc, c'est comme s'il veut faire une continuité de ce qui existe. C'est ça, Ar-Rija'a. On continue de ce qui existe. Sans pour autant qu'on va être obligé de lui imposer un nouveau contrat, une nouvelle dot, sans contrepartie. Donc, une reprise, continuité de l'État, sans qu'il y ait exigence, qu'il, on va dire, dédommage ou qu'il fasse la démarche, une démarche autre que celle qui existe. On va faire durer la continuité de ce qui existe. C'est ça ce qu'appelle le Rija. Alors cette rija va se faire durant l'idda, durant donc la période de viduité. Et comme je vous ai dit, l'idda, le principe c'est soit 3 cycles menstruels, soit 3 mois pour les femmes ménopausées, celles qui n'ont plus de cycle menstruel. Donc l'idda, donc c'est le fait de continuer ce lien et de maintenir cet acte de mariage. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, il est clair dans le Coran, il dit wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Dans une situation donc de viduité, les époux ont priorité droit à révoquer ou à demander à leur épouse de revenir à cet état de fait qu'est la vie conjugale. La sentence divine elle est claire. On va expliquer ça un peu plus tard. Donc il est formellement interdit à quiconque de venir, nous en avons parlé, soit par allusion ou d'une manière explicite, faire comprendre à une femme qui est dans sa période de viduité qu'il aimerait bien la demander au mariage. C'est interdit. Et nous avions vu, et on va revenir, que l'imam Malik, par exemple, est des savants qui dit, même si le contrat a eu lieu, on les sépare, on annule, parce qu'il a fait un acte haram, que Dieu a interdit formellement. Donc on ne peut pas demander ou faire comprendre à une femme qui est dans une période de viduité d'un divorce révocable par allusion ou par texte explicite lui faire comprendre qu'on voudrait bien la demander au mariage. Parce que Dieu a dit clairement « Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna » et leurs maris ont priorité, ont le plus de droit à les révoquer. Alors demander de reprendre la vie commune, c'est la sourate 2, le verset 228. Donc c'est un retour sans nouveau contrat. Et ça sous-entend aussi que le mariage finit si la période de la révocation s'achève. C'est ça que ça sous-entend. Le prophète a dit, l'ange Gabriel est venu me voir et il m'a dit « révoque Hafsa. Parce que le prophète, vous vous rappelez, il s'était mis en colère contre ses épouses, qui ont fait, on va dire, deux groupes, et chacune à sa tête une chef, qui demandait à son salat plus de dépenses, plus de nafaqa, et ils ont oublié qu'ils ont imposé un rasoul qui est tourné vers l'au-delà, et non pas vers la vie d'ici-bas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait longtemps, presque un mois ou plus, sans leur parler, et puis il leur a donné le choix, soit de rester avec lui ou de partir. Mais Sayyida Hafsa, elle avait une qualité. C'était une femme très pieuse. Sawwamatun qawwama. Elle faisait vraiment le jeûne en permanence, et elle adorait Dieu, elle accomplissait des veillées en permanence. Et donc Sayyida Muhammad dit, Jibril est venu à moi, et il m'a dit, révoque Hafsa, innaha sawwamatun qawwamatun, elle sera parmi des épouses au paradis. Donc là, on a la question de Raja'a, et donc le hadith est rapporté par Abu Dawoud avec, et autres, avec une chaîne jugée bonne. Hassan, Snadou Hassan. Et le terme utilisé par Rasoul Salam, il a dit Raja'a. Voilà, Raja'a. Donc Raja'a, c'est pendant cette période-là. Cette Raja'a est de deux sortes. La révocation est de deux sortes sur le plan juridique. Donc vous avez une Raja'a d'un divorce révocable et elle se fait par la parole ou par l'acte. Et cette Raja'a ne nécessite ni contrat, nouveau contrat, ni tuteur. Et on ne demande même pas la permission à la femme puisqu'elle va rester dans le foyer conjugal. C'est-à-dire, il suffit qu'il se parle, ou il rentre, il prend sa femme dans ses bras, il l'embrasse, etc. Et s'ensuit une intimité, ben ça, ça s'appelle la révocation. Je parle du principe de base. Ça va? Donc ça, lorsque c'est donc d'un divorce révocable. Ça, c'est la première sorte de rija. Le deuxième, ça s'appelle rija, et que Dieu subhanahu wa ta'ala a institué aussi, c'est d'un talaq. Ça veut dire quoi? C'est un divorce effectif, mais il n'est pas définitif. C'est quoi un divorce effectif non définitif? C'est lorsque la période de la viduité s'est achevée et qu'il y a eu un seul divorce ou un deuxième. Donc il y a possibilité de reprendre vie commune. C'est clair? Ça s'appelle une muraja'a. Mais cette muraja'a, elle nécessite toutes les conditions d'un nouveau contrat, c'est-à-dire un nouveau contrat, une dot, etc. Et dans les deux cas, la période de viduité ne s'est pas encore achevée, il y a révocation, le mari a priorité. Et dans le deuxième cas où il y a eu fin de la période de viduité et l'homme demande à sa femme de revenir, l'islam dit il a priorité. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien intime, il y a un lien affectif qui est déjà là. Et surtout peut-être il y a des enfants. Et surtout, qu'il y a, si les liens d'alliance sont bons. Et si il y a, donc, il y a priorité. Il y a priorité à Zawj qu'il y a eu. Donc, qu'il la révoque pendant l'Edda et qu'elle est encore chez elle. Ou que l'Edda s'est achevée. Dans ces deux cas-là, l'homme a priorité, l'époux a priorité. C'est clair? Et que le musulman craigne Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne vienne pas détruire cette possibilité de retour. Même si la idda est finie. Nous sommes d'accord? Donc c'est ça, donc voilà, ça s'appelle une révocation. La première, elle est sans contrat, sans condition. La deuxième, elle est, on exige cette révocation, toutes les conditions exigées pour un contrat de mariage tout à fait normal. Alors, quel est le statut de cette muraja'a? Nous avons dit, elle est demandée, mais... Un homme ne peut pas cohabiter sa femme avec sa femme pendant le raja'a sans qu'il lui fait comprendre qu'il la révoque. Il ne peut pas dire je t'ai divorcé, mais tu es toujours ma femme et je n'ai rien à te dire. Wa alaykum salam et on mène la vie. Non. Ils disent la Bouddha an yuraji'a. Il faut qu'il lui dise ou qu'il lui fait comprendre que c'est une révocation. Nous sommes d'accord? J'ai dit qu'elle reste pendant le cycle, les trois cycles ou pendant les trois mois chez elle. Et lorsque je dis chez elle, c'est dans le sens du terme. Elle n'a pas le droit, une femme musulmane qui respecte la loi de Dieu et la sunna de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son mari la divorce, elle n'a pas le droit de lui dire je m'en vais, je ne reste plus chez moi. Et lui, il n'a pas le droit, il commet un haram s'il la met dehors de chez elle. Parce qu'elle est toujours sa femme, il est toujours son mari. elle est à sa charge. Si elle quitte le foyer conjugal, alors là, elle est nashez, elle est une femme rebelle. Et alors là, elle n'a plus le droit à la prise en charge. Mais elle doit l'assumer. Mais dans notre religion, le divorce révocable ne permet pas ni à la femme de dire « mon union est finie tant qu'il y a idda » et ne permet pas à l'homme de lui dire « tu n'es plus mon épouse, tu t'en vas ». Ni l'un ni l'autre n'ont le droit à cet agissement. Ce que nous voyons malheureusement sans arrêt, c'est cette situation non conforme à la loi de Dieu. Lorsqu'une femme, son mari lui dit « antitalaq », elle lui dit « je ne reste plus ». Ou lui, il lui dit « tu n'as pas le droit de rester ». Et tous les deux sont en état de péché majeur. Je n'ai pas dit « sarira lakin kabira ». Parce que Dieu a dit clairement « la takhruj tukhrijuhunna ». Vous ne pouvez pas les faire sortir. Et il a parlé aux femmes, elles n'ont pas à sortir. Je n'ai pas dit qu'elles ne sortent pas pour dehors, pour aller acheter. Ou... C'est-à-dire, elles n'ont pas à quitter. Et l'homme n'a pas le droit de la mettre dehors en lui disant « tu quittes parce que tu n'es plus mon épouse ». C'est faux. Pendant la période de l'Idda, ils sont encore mari et femme. Simplement par respect à la femme, les savants disent « il n'a pas le droit de cohabiter avec elle sans lui avoir fait comprendre soit par la parole explicite ou par des démarches. » Il apporte des fleurs et des cadeaux, etc. pour dire « on reprend vie commune, j'ai commis une erreur ou tu as commis une erreur et on est arrivé à ça. » Mais ils disent « la Bouddha imma min qawlin sarih » une parole explicite, il dit à sa femme « raja'tuki » ou des faits qui montrent qu'il veut reprendre vie commune. Et non pas, il fait comme s'il n'y a rien lieu, rien ne s'est passé, et il rentre directement et puis tu viens, on va cohabiter. Mais non, ce n'est pas comme ça. C'est déjà même pour cette démarche dans une intimité normale, ça ne se passe pas comme ça. Que dire après qu'il y a eu talaq ou problème. Donc il y a un minimum de respect et de règles juridiques à respecter et de convenances. Et ils disent, nos savants, il n'a même pas le droit de la regarder avec désir, malgré qu'elle est chez lui et c'est sa femme. Elle n'a pas de foulard ni rien du tout. Il n'a pas le droit de la regarder avec désir. C'est l'avis des Shafi'ites et des Malikites. Les Shafi'ites et Malikites, il n'a pas le droit même de la regarder avec désir tant qu'il ne l'a pas révoqué. Les Hanafites et les Hanbalites, ils disent qu'il n'y a pas d'interdiction. Il peut rester tête à tête, il peut voyager avec elle, il est responsable d'elle au niveau de sa nourriture, de son habillement, de l'habillement, et ça c'est la position de tout le monde. Mais ils disent que ça peut se faire sans ces règles-là. On ne peut pas faire une démarche de révocation à condition. Je te révoque à condition que, sinon conforme à l'islam. Bichart, à condition que tu me demandes pardon, à condition que tu fasses ceci. Non, ça n'a rien à voir. Donc la position, la révocation ne se fait pas, elle n'est pas conditionnée. Si tu fais ceci, je te révoquerai. C'est non conforme à l'islam et c'est tout à fait incorrect. La position de la majorité des juristes, et on n'exige pas qu'il y ait des témoins présents lors de la révocation. Je dis la majorité, ça sous-entend qu'il y a des savants qui existent, donc que la révocation se fasse devant témoins. Ça va? Mais la majorité n'exige pas témoins. Mais d'autres exigent la présence des témoins. Comme l'imam Ibn Hazm al-Dahiri. Les Dahirites exigent que l'homme, lorsqu'il va révoquer sa femme, la fasse devant des témoins. Et donc, ils ont considéré que c'est une obligation même que de faire cette révocation. Et ils se réfèrent au verset 2 de la sourate 65, le divorce. Dans la fin de ce verset, Dieu dit « Wa ashhidu dhawai adlin minkum » que deux témoins honorables d'entre vous soient présents. Alors eux, ils n'ont pas pris ce verset au sens de la recommandation, mais ils l'ont pris au sens de l'obligation. Donc je répète, les Zahirites prennent le verset 2, sourate 65, comme argument qu'il est obligatoire que la révocation se fasse devant deux témoins honorables. Les autres disent qu'elle n'est pas nécessaire, mais pourquoi pas, elle est recommandable. Donc là, concernant donc la révocation. Nous passons maintenant à des situations concrètes de divorce. et qui vont nous permettre de comprendre le fonctionnement légal. Je vais commencer par maintenant avec plus de détails, le divorce du contraignant, c'est-à-dire sous la contrainte. Nous avons dit que la position de la majorité absolue des savants, c'est que ce genre de divorce n'a pas lieu. Pourquoi ? Parce que celui qui a divorcé sous la contrainte, il l'a prononcé pour repousser un mal, un danger, une nuisance, un dommage qu'il allait subir ou qu'il subit. Et vous savez très bien que dans notre religion, toute chose commise sous la contrainte, elle n'est pas considérée légalement admise. Surtout lorsqu'il s'agit d'une contrainte absolue. La contrainte absolue, c'est-à-dire c'est qu'on ne laisse pas à la personne le choix. C'est ça la contrainte absolue. Et donc lorsque ça se passe sous la contrainte, Dieu ne tient pas lieu donc cette attitude ni la position selon le hadith rapporté par Ibn Majah et Al-Bayhaqi et d'autres qui est jugé Hassan, dans lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Dieu subhanahu wa ta'ala n'a pas pris en considération pour ma communauté ce qu'ils commettent par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Donc toute chose qu'un musulman ou une musulmane commette lorsqu'elle agit par oubli ou par ignorance ou par la contrainte, sous la contrainte n'est pas pris en considération et il y a absence totale de grief et de sentence, de sanction. Donc al-mukrah, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un à qui on a pris sa volonté, on lui a spolié sa volonté, on dispose de lui totalement et donc il ne sait pas prendre position d'une manière libre. Comme vous le savez, tel que par exemple Sayyidina Ammar ibn Yasir, radiallahu anhuma, lorsqu'il a prononcé le terme du kufr, il a déclaré qu'il reniait Mohammed et sa religion sous la torture. Et donc Dieu subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 16, le verset 106, « Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman » Donc celui qui était contraint alors que son cœur est empli de foi, donc il sous-entend nul grief. On ne prend pas en considération ce qu'il dit. Et donc c'est la position donc des savants. On a un avis chez les Hanafites qui disent on ne prend pas en considération cette contrainte et le divorce a lieu. Mais vu les hadiths et les versets, l'avis de la majorité est le plus fondé. Et vu que aussi, comme on a dit, comme une condition pour qu'on prenne en considération l'agissement d'un être humain, c'est qu'il doit être mukhtar, il agit en toute liberté de choix. Donc l'avis de la majorité est plus fondé. Le divorce du plaisantin maintenant, qu'on a appelé le hazel. Donc c'est celui qui prononce un terme, mais il ne sous-entend pas son sens, sa signification. Il dit la parole, et donc elle a un sens évident, mais cette parole dit « moi, mais je ne signifie pas son sens réel ». Mais vu l'importance du mariage, comme j'ai dit, et qui ne peut pas être sujet de plaisanterie, la majorité absolue des savants de l'islam considère ce divorce ayant lieu, et il se base, comme je vous ai dit, sur le hadith rapporté par l'imam Ahmad, et les sunan excepté An-Nasa'i, c'est-à-dire les trois sunan, Ibn Majah, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Donc j'ai dit Ahmad, Abu Daoud, An-Nasa'i, donc At-Tirmidhi Ibn Majah, puisque An-Nasa'i n'en fait pas partie, rapporté par l'imam Al-Hakam qu'il a jugé sahih, aussi authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après ce qu'a rapporté Abu Huraira radiallahu anhu, trois choses sont considérées du domaine du sérieux lorsqu'elles sont dites sérieusement, et lorsqu'elles sont considérées du domaine du sérieux lorsqu'elles sont dites en plaisantant, le mariage, le divorce et la révocation. On ne peut pas dire à quelqu'un, à une femme, je me marie, puis on dit non, j'ai rigolé. Normalement, un juge musulman peut sanctionner. Il peut sanctionner une femme qui dit à un homme, je suis d'accord pour le mariage, il commence à faire toutes les démarches, puis après qu'il a dépensé, couru, et le type il s'est engagé affectivement, financièrement, il peut dire non, c'était pour rigoler, que j'ai dit pour voir si t'étais vers quelqu'un de sérieux et vraiment t'étais intéressé. Il peut déposer plainte pour dédommagement moral et même financier. On en a parlé de cette possibilité de dédommagement pour déjà la rupture de fiançailles, que certains savants musulmans contemporains et même anciens ont considéré que c'est quelque chose qu'on peut reconsidérer du point de vue légal et juridique, et du point de vue justice. le dédommagement. Donc le prophète a dit, trois choses sont sérieuses, si elles sont dites sérieusement, et elles sont sérieuses si elles ont été dites en plaisantant, donc le mariage, le divorce et la révocation. Donc ça c'est pour le hadith. Nous avons certains savants qui disent que le divorce n'a pas lieu. Donc je vous ai donné la position de la majorité, la grande majorité des savants de l'islam. Ceux qui disent qu'on ne prend pas en considération cette plaisanterie et le divorce n'a pas lieu, c'est une des deux versions rapportées d'après l'imam Malik et d'après l'imam Ahmad. Donc on a deux avis qu'on nous rapporte. Et en même temps, on nous dit que c'est une... Ils disent pourquoi ? Ils disent parce qu'il n'y avait pas l'intention, niya, ou l'azm, et la résolution de divorcer. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas en considération. Les autres, ils disent on prend en considération... parce qu'on ne peut pas plaisanter avec des choses aussi graves, et vu la présence du hadith de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Aussi. Le texte, il est là. Ça, donc, concernant donc, le plaisantin, donc, je répète, donc, la position de la majorité, si un homme en train de jouer avec d'autres, de rigoler avec sa femme, ils disent clairement, je vous donne l'exemple, ils citent, hein, il est en train de plaisanter avec sa femme et elle par exemple elle lui dit divorce-moi, et ils sont en train dans une, donc ils sont dans une intimité, hein. Il lui dit ben, la majorité dit ben, le divorce a lieu, donc elle n'a pas à lui demander de la divorcer pour, en rigolant, et lui il n'a pas à l'utiliser aussi sous forme de blague et de rigolade. Donc ils disent vraiment الرجل يداعب زوجته. Ils sont en train vraiment de jouer ensemble, là, dans une intimité. فَتَقُولُ لَهُ طَلَّقْنِي فَيَقُولُ لَهِ أَنْتِ طَالِقْ قَالَ الْجُمْهُورُ وَقَعَ الطَّلَاقُ. Talaq a eu lieu. J'insiste, je répète, il ne faut pas voir uniquement la situation, mais comprenez, si l'islam tient cette position rigoriste, c'est parce qu'il accorde beaucoup d'importance à l'union familiale. هَذْ زَوْجِيَ, ce n'est pas quelque chose de léger. Nous parlons du moyen qui permet d'instituer le noyau principal qui est à l'origine de la constitution de la société, qui est la famille, l'a'ila, l'osra. C'est pour ça, lorsqu'on se marie, on doit être conscient de notre démarche, qu'on ne se marie pas uniquement pour le plaisir sexuel, qu'on ne se marie pas uniquement pour satisfaire un affectif, une passion, mais qu'on se marie aussi parce qu'il y a un engagement social, et pour les musulmans un engagement communautaire en plus. Il faut bien réfléchir à ce que vous mariez, s'il vous plaît. On ne se marie pas par un coup de tête. On ne se marie pas parce qu'on est amoureux ou amoureuse uniquement. On ne se marie pas parce que... Et on ne divorce pas aussi parce que... On pèse. Parce que c'est quelque chose de très 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 grave. Et nous les musulmans, rappelez-vous, je vous ai dit qu'on se marie pour la vie. Ah non, et d'où la condition, rappelez-vous, je vous ai dit qu'une des conditions de validité du mariage en islam, ta'bid niyat al-zawaj. Lorsqu'on se marie, on formule l'intention de faire durer l'union conjugale. Alors pour faire durer cette union, il faut l'assumer à sa juste valeur et savoir sur quoi on s'engage. Qu'est-ce qu'on veut de ce mariage? Et qu'on cesse vraiment d'en parler sous une forme qui est utopique et qui n'est pas réaliste. Le divorce de l'ivrogne maintenant, sakran. La samahallah, une musulmane est éprouvée par un homme musulman, mais qui boit. Ou qui buvait pas, et subitement il devient quelqu'un qui boit. Par fitna, par mauvaise fréquentation. Parce que rappelez-vous, la position théologique chez les musulmans sunnites, celui qui commet un péché majeur, il n'est pas kafir chez nous. Tout bien sûr, la condition c'est qu'il reconnaît qu'il commet un haram. Il reconnaît qu'il fait un acte interdit. Et qu'il reconnaît que Dieu est un et que Mohammed est le messager de Dieu. Et que l'islam est la religion de Dieu. Et bien ce pécheur qui commet le péché majeur, chez nous les musulmans sunnites, il est toujours musulman. Voilà qu'il n'a pas en cas de désobéissance grave à Allah subhanahu wa ta'ala. Les seuls qui considèrent qu'il est mécréant, ce sont les khawarij, les dissidents, qui ont tué Sayyidina Ali radiallahu anhu. Cela considère le croyant, la croyante qui s'adonne à un péché majeur tel que boire de l'alcool, ne pas prier, forniquer, etc. Ce sont des gens qu'on doit tuer. Et on ne les enterre pas dans nos cimetières, font pas partie de notre communauté. Ça, c'est la position des khawarij. Mais la position des musulmans sunnites, Ahle Sunna wal Jama'a tous, excepté la position de l'imam Ahmed pour celui qui délaisse la prière. Mais pour ce qui est des autres péchés, l'imam Ahmed réintègre la position de la majorité des savants. Un murtakib al-kabira mu'min. C'est clair? S'il se repent, Allah yatoub alayh. S'il meurt en s'adonnant à ce péché, il est sous la volonté de Dieu. Il lui pardonne ou il le punit. Ils ne disent même pas qu'il est en enfer. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va devenir de nous et de lui lorsqu'on meurt. Allah peut pardonner à celui qui s'est donné un péché majeur pour une qualité que vous ignorez et que j'ignore. C'est pour ça que notre prophète nous a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on parle d'un ou d'une musulmane qui était musulman, mais qui commettait des péchés majeurs, de dire du bien de lui. Parce qu'on ne sait pas quel est son devenir. Et peut-être on peut parler de quelqu'un en mal, alors qu'il est parmi ceux qui sont sous la béatitude de Dieu et dans la félicité. Qala sallallahu alayhi wa sallam, udhkuru mawtakum bi khayr. Dites du bien de vos morts. Vos morts, c'est-à-dire musulmans. Regardez, ça c'est la position unanime, hein, de Ahl Sunnah wal Jama'a. Que Murtakib al-Kabira, il n'est pas kafir. Faites attention de ne pas vraiment confondre les discours que vous entendez maintenant dans cette tendance qu'on appelle la tendance takfiri qui considère tout le monde kafir. Faites attention. Ahl Sunnah wal Jama'a, ce n'est pas ça leur position. Depuis les anciens temps, ce n'est pas nouveau. Donc, as-sakran, donc c'est quelqu'un qui boit jusqu'à ce qu'il arrive à un état où il commence à divaguer. Son discours, il est pêle-mêle. Il ne sait plus synchroniser son discours. Donc, ce sakran, donc on l'appelle. Vous avez deux, hein, deux types de sakran. Hein. Lorsqu'il arrive à un état où il divague, il ne sait pas ce qu'il dit, etc., on dit tafah. C'est-à-dire vraiment une ivresse profonde. Et lorsque c'est quelqu'un qui est conscient, mais tout en étant ivre, on dit il est nashwan, muntashi. Ah, il est dans une sorte d'euphorie. Il devient plus, il rigole plus, etc. Mais c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. L'autre, il est miskin tafah, vraiment comme lorsque le verre il est plein. C'est-à-dire il est tellement ivre qu'il ne se rend plus compte de ce qu'il dit, ce qu'il fait. Excusez-moi le mot, il peut même faire ses besoins sur lui-même, il ne se rend pas compte. Il se cogne, il ne sent rien. Il sentira ça le lendemain. Aïe, j'ai mal partout, le bleu et tout. Mais pendant son ivresse, il est blessé, il est tout, il ne se rend compte de rien. Donc il y a deux sortes d'ivresse, l'ivresse profonde et l'ivresse légère. L'ivresse profonde s'appelle sakran tafah. L'ivresse légère, il dit muntashi. Mais il est conscient. Lorsque nous sommes devant un sakran tafah, c'est-à-dire il est dans un état d'ivresse profonde, les écoles juridiques s'accordent. Si vraiment il est tombé dans un état d'ivresse, en consommant un produit qui n'est pas enivrant de base, prise d'un médicament, etc. Il y a des médicaments qu'on prend qui font la personne, elle devient vraiment, elle divague, elle dit n'importe quoi. Il y a des... Moi, j'en étais témoin de certaines personnes qui prenaient des médicaments, mais c'est plus qu'elle raconte. Il est dans un état presque comme un ivrogne. Il confond tout. Prise des médicaments, ils disent à ce moment-là, et c'est bien sûr que c'est rare ces situations-là, ils disent donc que le divorce n'a pas lieu. N'a pas lieu. Mais si la personne est tombée dans un état d'ivresse, et c'est le plus fréquent maintenant, c'est-à-dire la personne elle-même, au début, elle est consciente et librement, elle consomme un produit interdit, enivrant. Interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le muskir. Il sait que c'est un produit muskir. Et faites attention, moi j'aime pas dire le vin, parce que le vin est une sorte de produit enivrant. Il vaut mieux, Dieu utilisant le terme du Coran, le terme khamar, ainsi que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Al khamar, c'est-à-dire tout produit qui rend ivre. Tout produit qui rend enivrant, il est khamr. Et tout produit qui rend enivrant, il est interdit. C'est clair? Donc, il vaut mieux dire les produits ou des produits enivrants. Et non pas limiter ça à un produit alcoolisé ou au vin. À ce moment-là, on risque de considérer certains produits, ils ne sont pas, alors qu'on peut fabriquer du vin. Pas uniquement du raisin, hein. On peut fabriquer du vin et des produits enivrants de dattes, hein. partir des dates. Les Japonais, ils le font à partir du riz. Hein. Le riz de base, il n'est pas haram, le riz. Donc c'est clair. Donc il faut faire attention donc, à la dénomination donc, pour ne pas réduire. Et donc si la personne elle est consciente et elle consomme un produit qui est jugé enivrant de base, ou qui prend une drogue, ou qui consomme une drogue. La drogue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Parce qu'il y a certains jeunes qui disent, mais où sont les textes qui disent que la drogue est haram en islam? Mais le prophète a dit, le sahaba a dit, « Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an kulli muskirin wa mufattirin. » Le muskir, c'est l'enivrant. Ou le mufattir, c'est qui rend la personne comme une sorte de... vraiment de lavette. Vraiment, il ne sait plus ce qu'il fait, il est dans un état délabré ou relâchement total et absence. Donc c'est ça le mufattir. Le mufattir, c'est le mukhaddir. Qui rend la personne donc dans un état de drogué. Ou le muskir, c'est le produit enivrant. Le hadith, il est connu, donc qui est pris et qui est à la base de l'interdiction des drogues et du hashish et tout ce qui va de pair. Donc la personne a pris ça d'une manière consciente, sans aucune nécessité. Les quatre écoles disent que son divorce est valide. C'est-à-dire, il a consommé du vin, il a consommé un produit enivrant, il a consommé de la drogue, et puis il est dans un état d'ivresse profonde, et il vient et dit à sa femme, un talaq, les quatre écoles disent son divorce a lieu. Parce que c'est lui qui s'est mis dans cette situation. Il n'était pas contraint. C'est-à-dire, il assume les conséquences de son acte. Déjà, il a consommé le haram. C'est normal, la conséquence, c'est qu'il sera sanctionné par Dieu. Et si qui va s'ensuivre sur le plan social, il doit l'assumer aussi. On ne l'a pas obligé à boire. Il a bu, il assume les conséquences. Donc ça, c'est l'avis des quatre écoles juridiques. Hein. Les quatre écoles juridiques considèrent son divorce, il a lieu. Je parle des quatre écoles. Pourquoi? Parce qu'ils disent, c'est lui qui a corrompu sa raison. C'est pour cela que nous considérons valide et on ratifie sa position, ce qu'il a fait par punition et sanction de quoi? Du fait qu'il s'est donné un acte interdit. On le sanctionne. Ça, c'est les quatre écoles. Maintenant, nous avons une autre position, celle de l'imam Zufar, Hanafit, l'imam Tahawi, que vous connaissez là, sahab al-Aqid al-Tahawi, l'imam Tahawi, Hanafit aussi. Il était Hanafit, l'imam Tahawi, rahimahullah ta'ala. L'imam al-Karhi, Hanafit aussi. Donc, j'ai cité trois maîtres de la pensée juridique Hanafit. Zufar, al-Tahawi, al-Karhi, et une version d'après l'imam Ahmad, ça nous fait quatre juristes ici. Al-Muzani, un des grands savants chafiites, on nous dit que c'est la position aussi de Sayyidina Othman, compagnon de Rasulullah sallam, et Omar, Ibn Abd al-Aziz, Tabi'i, que le divorce n'a pas lieu. Donc, j'ai les quatre imams des quatre écoles, et avec leurs compagnons, majorité, qui valident par sanction, et en même temps pour faire peur, pour que ça ne donne pas facilement à la consommation de boissons enivrantes. Et vous avez donc trois savants hanafites, une version d'après l'imam Ahmad, rahimullah ta'ala, et je vous ai cité avec eux aussi le Muzani, qui était parmi les sommités des savants shafi'ites, Sayyidina Othman, radiallahu anhu, Omar ibn Abdelaziz, Tabi'i, compagnon des compagnons, qui ne valide pas. Pourquoi? Parce qu'il considère que pour qu'une personne assume les conséquences de son acte, il faut qu'elle soit consciente de ses agissements. C'est ça leur argument. L'imam Shawkani va et appuie cette position. L'imam Shawkani, comme vous savez, c'était un des mujtahids du XIIIe siècle, rahimallahu ta'ala, donc yéménite. Un des grands mujtahids, on va dire, contemporains, c'est-à-dire par rapport à nos époques contemporains, c'est-à-dire pas ce siècle, hein, il y a deux siècles presque maintenant. Et lui-même, donc, le sahab, l'auteur de Fath al-Qadir, les livres d'exégèse, et en même temps, il est l'auteur des livres de Usul Fiqh, et en même temps, le fameux livre de Hadith al-Ahkam, Nail al-Awtar, l'imam Shawkani. Donc, il est considéré comme un imam du tarjih, qui est une grande référence, rahimahullah ta'ala, il ressemble beaucoup à l'imam Suyuti, l'érudit du 10e siècle, qui a écrit dans tout. L'imam Suyuti, il n'y a pas une matière, un domaine de science où il n'a pas laissé une trace. Il était shafi'ite, l'imam Suyuti, rahimahullah ta'ala. Et il a laissé des traces partout, que ce soit le fiqh, l'usul, l'aqida, l'ura, tarikh, partout. L'imam Shawkani lui ressemble. Mais l'imam Shawkani, donc, il a vécu, donc, il était yéménite. Et donc, l'imam Shawkani, lui, il donne du tarjih à cette position, deuxième position. C'est cette position qui est prise en considération dans les tribunaux musulmans contemporains. Par facilité, sinon l'Ummah n'aura plus de mariage pour le temps de famille. Surtout les époques elles ont changé et qu'on a malheureusement de plus en plus de musulmans qui consomment des boissons enivrantes. C'est la même chose, le fait de ne pas prendre en considération le divorce par triple formulation en séance tenante, il n'est pas pris en considération dans les tribunaux musulmans. Il est considéré équivalent à un seul divorce. C'est-à-dire, un homme qui dit sa femme, un dit talak, 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 dans les tribunaux musulmans, il est considéré une talqa wahida, un seul divorce. Parce que si on ratifie, alors il n'y aura plus de ménage. Et c'est la fatwa qu'on adopte, et moi c'est sur cette base de là que je donne la fatwa. Lorsque quelqu'un me dit, voilà, malheureusement j'ai dit à ma femme, un petit talak, un bethala, je lui dis, c'est un seul divorce. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le réprimander et lui faire et le sanctionner, et si c'est possible, s'il était devant moi, lui donner une bonne bastonnade en plus. Parce que quelqu'un qui dit à sa femme dit talq bithalath, c'est quelqu'un qui ne prend pas en considération la responsabilité et la valeur de ce terme et sa gravité. Mais dans le mahakam shar'iyya, on a pris en considération que la triple répudiation est équivalente à une seule, à un seul divorce. Et dans les tribunaux musulmans, talaq sakran al-tafah est considéré invalide. C'est celui-là qu'on a pris en considération et qu'on adopte parce que les musulmans ont changé et leur qualité n'est plus la même. Plus on sanctionne parce qu'ils sont un peu la même, et plus aussi on prend en considération certaines situations, sinon il y a un risque pour les familles. Donc voilà les situations. Donc je rappelle, talaq al-mukrah, celui qui est le contraignant, le contraint, talaq al-hazil, je vous ai donné donc la signification des différentes positions, et je vous ai donné la définition, donc le talaq sakran, les types d'ivresse, et les deux courants, et ce qu'en pense l'imam Shawkani, parce que je cite l'imam Shawkani, parce qu'il est quand même un savant dont les avis sont pris en considération. Et surtout, c'est un mujtahid du tarjih qui a son mot à dire et qui a beaucoup d'importance et de valeur. J'ai cité la première condition de validité du divorce, c'est le fait d'être quelqu'un de pubère, sain d'esprit et conscient de ce qu'on fait, mortar. Deuxième condition pour que ce divorce ait lieu, al-qasdu, l'intention. La personne, la budda tukun qasd, c'est-à-dire vraiment lorsqu'elle a prononcé cette formule, elle signifie réellement une résolution pour que le divorce ait lieu. C'est-à-dire la personne, en vérité, elle exprime par cette parole une résolution, une intention, une décision, une volonté. Alors, puisqu'on a dit ça, c'est une deuxième condition, prenons par exemple quelqu'un qui va prononcer le divorce par erreur ou par lapsus. Les savants sont allés même analyser ça. Vous allez me dire pourquoi? Mais parce qu'ils tiennent aux familles, ils ne veulent pas que les familles soient cassées. Hein? C'est ça que vous devez comprendre, le fait qu'ils sont allés vraiment même à analyser une situation de quelqu'un qui vient et dit « Je jure devant Dieu, et je jure même sur la parole de Dieu, que je l'ai dite mais par erreur, par lapsus, et je ne pensais pas et je ne voulais pas divorcer. » Il faut qu'ils traitent de ça. Ils ne vont pas dire « Non, on s'en fout, on t'a dit divorcer, au revoir, ta femme n'est plus ton épouse, et au revoir. » Mais non, la famille c'est important, la famille. Et donc, ils disent, les shafi'ites disent, pour nous, celui qui prononce le divorce par le terme divorce par erreur, un lapsus, le divorce n'a pas lieu parce qu'il n'y a pas l'intention de divorcer. C'est des situations particulières, mais elles sont des situations qui peuvent arriver. Alors, Et ils disent que nous, les savants, ils disent, nous faisons la différence entre celui qui divorce en plaisantant et entre celui qui divorce par erreur. Ils disent, celui qui plaisante, il a mérité la punition et la sanction parce qu'il a dévalorisé, parce qu'il n'a pas pris en considération cette dimension sacrée du mariage. C'est pour ça qu'on l'a sanctionné. Mais celui qui l'a dit par erreur, ils disent, nous ne voyons pas pourquoi est-ce qu'on doit le sanctionner. Si Dieu subhanahu wa ta'ala pardonne l'erreur, comme le hadith j'ai cité, de la sunna tout à l'heure, « Rufi'an ummati al-khata'u wa'n-nisyanu »« Wa mastukiru alayhi » Dieu ne tient pas grève en communauté ce qu'ils commettent par erreur. Pourquoi ils disent les savants, nous on doit sanctionner celui qui dit le mot talaq par erreur. Donc c'est pour ça qu'ils ne le valident pas. Troisième élément ou condition pour que le divorce ait lieu, le sujet. C'est-à-dire une femme. Il ne faut pas divorcer n'importe qui. Donc il faut qu'il cite, qu'il désigne ou le nom. Mais un tétal, il n'y a personne. Mais tu divorces qui? Donc ils disent que le sujet, c'est-à-dire c'est une femme bien précise avec laquelle il y a un lien matrimonial. Ce n'est pas un futur lien. Lorsque je me marierai, je divorcerai. Mais il n'est pas marié pour qu'on va la divorcer. Il faut qu'il y ait un réel qui existe réellement. Donc ils disent, et ce lien existe déjà par le contrat, même avant consommation. D'où le fait qu'on peut, le divorce peut avoir lieu avant la consommation, qabla ad-dukhul. Mais il y a un aqd, il y a un contrat. Comme la femme peut demander le divorce avant la consommation. Et donc elle a un statut spécial. De même, donc, le divorce donc, a lieu dans la edda, comme on a dit, à partir d'un divorce révocable. Pourquoi? Parce que le divorce révocable ne lève pas le lien matrimonial, conjugal. Donc la vie conjugale, elle est là. C'est pour ça qu'on a dit deuxième condition, donc divorcer d'une femme bien précise avec laquelle il y a une relation matrimoniale et un lien conjugal. Et donc la edda ne lève pas le lien conjugal. J'insiste, parce que nous avons beaucoup de frères et de sœurs, comme j'ai dit tout à l'heure, une fois que leur femme elle est dans la edda, ils croient qu'elle doit partir, ou elle croit qu'elle doit partir. Non, la edda ne lève pas le lien matrimonial. Ils sont toujours époux et épouse. Donc voilà, c'est pour ça que je m'excuse. Si un homme divorce, donc il doit assumer, mais il y a toujours le lien qui est là. Je vais conclure avec ce point pour laisser la quatrième condition, c'est la formulation. Comment est-ce qu'on doit formuler? Les Shafi'ites et les Malikites, je m'excuse, ça me fait sourire, disent que le divorce peut avoir lieu par n'importe quelle partie de la femme. C'est-à-dire, il va dire, Ya Khadija, tallaqtu rijlaki. Khadija, j'ai divorcé ta main. Ben, ils disent, ben, le talaq a eu lieu parce que c'est une partie de Khadija. C'est Khadija en vérité qu'elle a divorcé. Il ne va pas dire non. Après, il dit non, excusez-moi, j'ai rigolé, j'ai divorcé son pied, sa main. Mais non, c'est la personne. Parce que la main désigne la personne. Le pied, c'est le pied de Foulan. Par une partie, on désigne là l'ensemble, le col. Parce qu'il y a des gens qui le disent et après, il dit non, j'ai pas divorcé, j'ai signifié sa main. On lui dit non, la main, c'est la main d'une telle. Donc c'est une telle qui est visée, pas forcément sa main. Et donc les Malikites et les Shafi'ites disent que le divorce a lieu. Celui qui dit par exemple, je te divorce, la moitié d'un divorce. Nusf talqa. Mais non, c'est un divorce, il n'y a pas un nusf talqa. Il y a des gens qui jouent avec la loi de Dieu comme ça, ils sont des malades, il y en a. Et des irresponsables, il y en a aussi. Soit ils sont des gens irresponsables ou des malades. Ils jouent avec la religion de Dieu. Et alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bah, moi, j'ai divorcé moitié d'un divorce. Mais non, il n'y a pas de moitié. Dieu dit divorce, bah, c'est un divorce réel. Donc, on le considère comme un talaq. Et les Hanbalites, dans l'ensemble, ils sont d'accord avec les Malikites et les Shafi'ites sur cet avis-là. Les Hanavites vont plus loin. Ils disent, s'il attribue ou il endosse le terme divorce à n'importe quoi qui concerne cette femme bien précise. Le divorce a lieu. Quelle qu'elle soit la chose qui appartient ou qui touche de près à cette femme-là, bien précise, son épouse, avec laquelle il a consommé un matrimonial, le divorce a lieu. La majorité des savants disent que le divorce a lieu par toute formulation, tout terme, tout contexte qui signifie qu'il y a divorce. Voilà, donc, voilà, je vous ai donné les trois conditions. La prochaine fois, Inch'Allah, on parlera plus d'une question très concrète aussi. C'est la formulation. Oui, je ne pensais pas à divorcer, j'ai dit blaharam, et j'ai dit ceci, là, est-ce que vous entendez là, les formules et tout? Ou va, rentre chez tes parents, je ne veux plus de toi, est-ce qu'il y a divorce? Mais on entend ça, ce sont du concret. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on essaiera de détailler la position des juristes sur ces différentes formulations. Et est-ce qu'elle ratifie ou ne ratifie pas un divorce, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.